C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
Alors bonjour, donc, je suis Sylvain Delator. Donc, je suis astrophysicien, je travaille donc, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et donc ce qui m'intéresse le plus finalement c'est étudier la cosmologie, c'est-à-dire notre univers comme un objet physique. Donc mon travail dans Euclide, c'est dans le cadre notamment de la préparation de la partie spectroscopique, on va dire, de la mission, vraiment pour comprendre, essayer de répondre aux grandes questions de la cosmologie. Je suis sur le projet depuis pas mal de temps déjà, depuis 2011. Et voilà, je suis impliqué à différents niveaux. Bon, je suis plutôt, surtout un scientifique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va après utiliser les données pour vraiment faire de la science, dans le sens où mesurer des quantités physiques, essayer de les interpréter pour comprendre l'univers. Mais je travaille aussi donc sur d'autres aspects dans la préparation de la mission pour essayer d'avoir des mesures les plus précises, quoi, sur les observables et ensuite sur les paramètres. De la cosmologique. Je me suis toujours attaché à travailler dans le groupe de travail scientifique sur l'étude de l'agrégation des galaxies, donc qui est une des deux grosses sondes de Euclide, donc étudier la distribution spatiale des galaxies pour en déduire celle de la matière, puis comprendre l'énergie dans l'univers et comment ça évolue avec le temps. Donc j'ai toujours plus ou moins travaillé dans ce cadre-là, essentiellement, donc depuis 2011. Et petit à petit, je me suis rajouté un petit peu de travail, je dirais, sur la partie un peu plus technique, sur les développements, ce qu'on appelle du pipeline, donc de la chaîne de réduction spectroscopique en particulier, mais au plus haut niveau, c'est-à-dire vraiment m'attacher à développer un petit peu les méthodes et les méthodes de calcul, je veux dire, pour vraiment obtenir des mesures, les mesures de plus haut niveau, qui sont les mesures qui sont juste avant la mesure des paramètres cosmologiques, qui est vraiment le but de cette mission. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur ces deux aspects, mais bon, quand même surtout sur la partie scientifique du groupe de travail sur l'agrégation des galaxies. Et dans ce cadre-là, l'idée, c'est vraiment de comprendre la méthodologie, comment on va faire vraiment avec Euclide, avec toutes les spécificités d'Euclide aussi, il faut bien comprendre, hein, pour atteindre la plus grande précision sur ce qu'on veut mesurer. C'est un travail de projection, de simulation, et ensuite après qui est implémenté après dans le pipeline, par exemple, dans le segment sol de la mission, qui est l'ensemble en fait de tous les traitements qui vont être faits sur les données et de manière automatisée.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie Escoffier, je suis directrice de recherche CNRS au CPPM, donc c'est le Centre de physique des particules de Marseille, on est à Lumini. Je suis impliquée sur le projet Euclide, depuis le début aussi, depuis 2011, mais avec une implication très faible au départ. Et puisque nous, dans l'idée, c'était de préparer plutôt la science qu'on allait faire sur Euclide. Et donc, mon équipe et moi, je suis impliquée sur d'autres projets où ça nous permet déjà de tester les analyses qu'on met au point, de les optimiser. Et puis, comme ça, quand on arrive sur Euclide, dès que les données sont disponibles, l'idée, c'est de pouvoir être tout de suite efficace. Euclide, c'est une grosse collaboration, c'est 2000 personnes. Avec une grosse compétition entre les équipes, même si c'est une compétition saine, dans le sens où le but c'est qu'à la fin il y ait un résultat qui représente les ambitions du projet. Mais il faut quand même faire sa place dans cette équipe internationale. Et donc l'idée c'est un petit peu que les Marseillais préparent un petit peu le terrain sur ce qu'on appelle la partie galaxy clustering. Qui est vraiment l'étude de la distribution des galaxies dans l'univers, comme l'a dit Sylvain. La distribution des galaxies dans l'univers nous donne directement des renseignements sur la densité d'énergie noire et de matière noire dans l'univers, et donc de savoir comment il évolue et comment on finira dans quelques milliards d'années.
Quelles sciences vont être effectuées sur Euclide depuis Marseille ?
Euclide a deux sondes principales, plus donc ce qu'on appelle une sonde cosmologique, c'est une observable qu'on utilise, qu'on va observer dans l'univers pour avoir un certain type d'informations. Donc Euclide, ces deux sondes principales, ce sont le cisaillement gravitationnel et le galaxy clustering. Et donc à Marseille, on est positionné sur ces deux thématiques. Et après, il y a d'autres thématiques plus larges, comme l'étude des amas, on peut faire de l'étude des supernovas, l'étude de l'univers proche, ou des choses comme ça. Sur les deux sondes principales, donc à Marseille, enfin au CPPM, on est impliqué sur divers aspects, mais surtout le galaxy clustering, c'est-à-dire on utilise la distribution des galaxies pour nous donner des renseignements sur comment évolue l'univers. En particulier, nous, on utilise les galaxies pour définir des objets beaucoup plus grands, qu'on appelle des vides cosmiques. Donc les vides cosmiques sont des endroits assez peu denses dans l'univers, qui sont pas complètement vides, hein, y a des galaxies qui sont dedans. Mais là, en fait, on sait aujourd'hui que la distribution de matière est représentée sur des filaments de matière noire. Et donc en fait, à petite échelle, l'univers est pas du tout homogène, il est très hétérogène. Donc les galaxies sont vraiment sur des filaments et des nœuds. Et toutes les régions entre ces filaments sont des régions plus vides, dans le sens où il y a moins de galaxies. Et donc on définit ça comme des vides cosmiques. Et la forme de ces vides, leur abondance ou la façon dont ils évoluent vont nous donner des renseignements sur l'énergie noire et la matière noire de l'univers. Donc ça c'est une approche, mais on a d'autres approches qui utilisent directement les galaxies. On peut en déduire par exemple la masse des neutrinos. Est-ce que les neutrinos sont... Enfin, on sait qu'ils sont massifs parce qu'ils oscillent. Mais on peut en déduire des contraintes sur quelle est leur masse supérieure. Donc, la cosmologie permet d'apporter des contraintes intéressantes par rapport à d'autres expériences de type physique des particules ou astroparticules sur ce domaine-là.
Donc une des choses qui nous intéresse en particulier, enfin en tout cas personnellement, c'est tester la gravitation. Donc tester la gravitation, la vitesse à laquelle la croissance des structures se fait sous l'effet de la gravitation. Et en particulier, un type de caractéristiques qu'on peut extraire de l'agrégation des galaxies, c'est donc ces distorsions qui sont liées aux vitesses particulières des galaxies et qui donnent une information sur la croissance de structure et enfin sur la gravitation. Donc tester la gravitation, c'est quand même aussi quelque chose qui est très important dans Euclide, notamment pour briser les dégénérescences entre les modèles cosmologiques avec ou sans énergie noire. Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse beaucoup et sur lequel donc je suis pas mal impliqué dans Euclide. Après, il y a d'autres sciences qui vont être faites aussi à Marseille ou au LAM ou au CPPM, plus liées aussi à l'évolution des galaxies. Euclide, à la base, c'est quand même une mission. C'est une mission cosmologique de premier plan, en effet. Mais elle va permettre aussi, vu la quantité de données qu'on va recevoir, enfin la position, la forme des galaxies sur un énorme volume de l'univers, elle va permettre de faire d'autres sciences et en particulier d'étudier aussi les propriétés des galaxies. Donc voir comment elles évoluent, ces propriétés, quel est le zoo de galaxies qu'il y a dans l'univers. Et ça, c'est des choses aussi qui sont faites voilà, à Marseille, dans la zone, au laboratoire d'Astrid Marteille ou au CPPM. Et des choses aussi qui sont intéressantes pour nous, c'est d'étudier les premières galaxies, voilà, ou les premières étoiles. Voilà, la première lumière, vraiment, qui passe au travers de l'univers, et voilà, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'inconnus encore dans notre compréhension de l'univers et des grandes structures et des galaxies. Et ça, et sûrement que Euclide va permettre de vraiment améliorer notre connaissance, hein, en tout cas sur ces thématiques-là.
Ouais, il faut rappeler qu'avec Euclide, on va observer 50 millions de spectres de galaxies, donc 50 millions de galaxies. Les relevés actuels, on est à 1 million de galaxies. Donc on va augmenter d'un facteur 50 le nombre de galaxies observées, ce qui va évidemment nous donner une nouvelle ouverture sur la compréhension.
En spectroscopie.
Et on attend des milliards d'objets en photométrie.
Des milliards en photométrie à peu près, donc c'est énorme.
De manière statistique aussi, en observant toutes ces galaxies, vous allez pouvoir cartographier la matière noire. Et donc Euclide a pour but d'observer toutes ces galaxies et donc également, vous le disiez Sylvain, de remonter dans le passé, jusqu'à près de 10 milliards d'années en analysant ces galaxies-là.
Dans le cadre des sondages purement cosmologiques, c'est-à-dire le sondage spectroscopique en particulier, l'idée c'est d'aller jusqu'à des décalages spectraux de 2 environ. Ça veut dire des époques où, disons, l'univers avait 7 milliards d'années, sachant qu'aujourd'hui, on pense qu'il y en a 14 milliards. Donc la moitié de l'âge de l'univers, à peu près. Donc on va remonter jusqu'à cette époque-là, a priori. Dans Euclide, il y a aussi une partie, un sondage plus profond, plus petit mais plus profond, qui n'est pas fait pour faire de la cosmologie, parce que le volume est plus petit, mais on va remonter encore plus loin dans le temps. Et là, l'idée, c'est ce qu'on appelle le champ profond d'Euclide, le deep field. Et ce deep field, il va aller jusqu'à des décalages spectraux de l'ordre de 7 pour les galaxies, c'est-à-dire vraiment au moment où il y a les premières galaxies, donc à la fin de l'âge sombre, quand il y a les premières protostructures, enfin de matière qui se forment, enfin de galaxies, d'étoiles et de galaxies qui se forment. Donc c'est une période très importante aussi, c'est la fin de la période de la réionisation. Et voilà, donc ça c'est aussi ce qu'on va pouvoir faire et vraiment des époques très intéressantes pour nous, hein, qu'on va pouvoir sonder.
Oui, parce que en fait, donc l'univers est composé de matière noire et d'énergie noire. La matière, la quantité de matière est constante. Donc quand l'univers s'expand, la densité d'énergie diminue, la densité de matière diminue, hein. Alors que la densité d'énergie noire, elle est constante. Donc en fait, il y a un moment dans l'univers où aujourd'hui on est dominé par l'énergie noire, mais si on remonte dans le temps, l'univers était dominé par la matière, matière noire et matière baryonique. Et donc en regardant, Euclide s'intéresse à la période entre un redshift de 1 et 2, et c'est vraiment, ça couvre en fait la période de transition où il y a la domination de la matière qui passe à une domination d'énergie. Donc ça nous permet vraiment d'aller tester les modèles d'énergie noire ou de gravité modifiée sur cette époque-là.
Et donc le rôle aussi de l'énergie noire dans l'expansion de l'univers.
Complètement, l'énergie noire est l'ingrédient qu'on a mis pour expliquer l'accélération de l'expansion. Enfin, on ne sait pas ce que c'est que l'énergie noire. On l'appelle l'énergie parce que c'est répulsif, on l'appelle noir parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais une alternative serait simplement de dire que le cadre de la relativité générale qui est valable à notre échelle, à l'échelle de la galaxie, ne l'est pas aux échelles cosmologiques. Et que si on fait une petite modification de gravité, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'énergie noire. Et pour ça, on a besoin d'aller tester dans le passé.
Et donc ça, c'est une manière aussi potentiellement de remettre en cause les lois de la relativité générale, avec cette mission Euclide.
Exactement.
J'essaie de me projeter pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver, disons, à la fin de la mission. C'est variable. C'est-à-dire que des fois, je m'imagine qu'on va découvrir potentiellement l'énergie noire, en effet, avec une équation d'état, etc., qui voulait être le redshift, hein, avec le temps. Mais des fois, je me dis... finalement, peut-être que après tout ça, après tout ce travail, peut-être que ce qu'on va trouver finalement, c'est ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, on va pas pouvoir vraiment avancer. On va trouver que la gravitation est bien représentée par bien décrite par la relativité générale, etc., etc. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est personnel, mais je pense que j'ai pas toujours la même perception des choses, en effet. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce que je pense qu'il est important à dire quand même, et je pense que ce que je ressens aussi, c'est que vu la quantité de données, la qualité des données qu'on va avoir, il y aura forcément des découvertes qui vont être faites, en fait. Même si c'est pas forcément l'endroit où on les atteint, et ça s'est souvent fait sur les missions précédentes, les grandes missions par exemple.
Voilà, qu'on attend.
Voilà, peut-être qu'on. Ça sera pas forcément la découverte d'une modification de la gravitation géocosmologique, peut-être pas, ou l'existence d'une énergie noire, etc. Mais peut-être que ce sera autre chose, peut-être que ce sera d'autres effets un peu plus subtils, je sais pas.
Et cette forme de sérendipité, est-ce que vous la préparez déjà? Est-ce que vous l'anticipez à tel point que vous pouvez créer les conditions pour être réactif si elle arrive?
Je pense que c'est dur de préparer. Là, on est dans la préparation. C'est une très grosse mission, comme l'a rappelé Stéphanie. Et donc, c'est un travail très lourd, de beaucoup de personnes en même temps, etc. Et donc il y a toute une organisation, et puis souvent quand on est là-dedans, quand on est dans la préparation, on a un peu la tête dans le guidon, j'ai envie de dire. Et aussi, oui, les priorités qui sont mises dans la préparation, c'est vraiment sur ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est tout ce qu'on connaît, donc on veut faire ce qu'on connaît aujourd'hui le mieux possible avec la mission. Voilà, donc on a le focus vraiment sur ces choses-là. Et du coup, on ne pense pas vraiment trop aux choses qui sont un petit peu autour et qui pourraient émerger, etc.
Donc, oui, et puis on est à 2 ans de la mission, donc, enfin de 3 ans, donc ça se rapproche très vite. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça puisse être lancé dans de bonnes conditions. Donc c'est difficile de prendre du recul sur qu'est-ce qu'on peut. En plus, on peut pas répondre par définition à cette question. Qu'est-ce qu'on va découvrir vraiment avec Euclid? On le découvrira, quoi.
Va permettre de comparer le calcul théorique à ce que vous allez observer pour donc confirmer cette accélération et cette extension de l'univers. Vous, c'est ça, vous allez comparer aussi des calculs théoriques aux données que vous allez recueillir grâce à la mission spatiale.
Oui, des calculs théoriques, il y a les théoriciens qui font beaucoup de modèles théoriques. Donc il y a la relativité générale, mais il y a des modèles qui partent de la relativité générale mais qui sont un petit peu avec un petit truc qui est différent, une constante qui devient variable ou des choses comme ça, ou à plusieurs degrés de liberté. Et puis il y a beaucoup même aussi de modèles d'énergie noire. Si on reste sur la relativité générale, dans un cadre de relativité générale, il y a d'autres modèles d'énergie noire qui disent que bon, l'énergie noire c'est pas une constante, mais ça évolue en fonction du temps. Alors il y en a qui disent que ça évolue en fonction linéairement en fonction de la distance, puis d'autres disent que ça évolue au carré. Enfin donc il y a beaucoup de modèles et il y en a une multitude en fait. Donc nous, notre objectif en tant qu'expérimentateur, c'est vraiment de prendre les observations, d'en tirer le meilleur parti, et après on les confronte effectivement aux modèles théoriques. Et du coup, ça nous permet d'évincer certains modèles théoriques en disant « celui-là, il ne reproduit pas bien les observations ». Et puis après, on se retrouve avec une certaine... Enfin, on peut avoir plusieurs classes de modèles qui s'ajustent à nos observations dans les barres d'erreur. Donc c'est important la notion de barre d'erreur. L'avantage d'Euclide, c'est qu'on est, comme on est sur un échantillon de 50 millions de galaxies, on s'attend à des barres d'erreur toutes petites. Donc on espère exclure le maximum de modèles et d'en retenir qu'un petit nombre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas compatible avec le modèle lambda CDM, qui est le modèle standard de la cosmologie. On ne peut pas savoir.
Il y a les modèles d'univers qui vont par exemple prédire l'évolution de la densité d'énergie noire, par exemple. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi les modèles qui vont permettre de, effectivement, étant donné un modèle cosmologique, une valeur de la densité associée à l'énergie noire, par exemple, de prédire l'observable qu'on va avoir, c'est-à-dire, dans notre cas, par exemple, ce sont des statistiques à 2 points, des choses comme ça, des choses qu'on va vraiment mesurer, et ce passage-là est pas non plus est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui nécessite aussi du développement en termes de modélisation. C'est-à-dire que au-delà des paramètres cosmologiques, j'ai envie de dire, il y a aussi toute la modélisation de l'évolution de la structuration de l'univers, donc les effets non linéaires liés à la gravitation. Et tous ces effets-là, même dans le cadre général, dans le cadre, disons, standard, ne sont pas triviaux, hein, en tout cas implémentés. Voilà.
Et voilà, et la force d'Euclide, c'est comme il combine en fait deux sondes primordiales qui sont le cisaillement gravitationnel et le galaxy clustering, donc c'est-à-dire la distribution des galaxies et en même temps la distribution de matière noire avec le cisaillement gravitationnel. Donc les galaxies, c'est la distribution de matière lumineuse. Et donc en confrontant les deux, du coup, on a accès encore à d'autres informations sur vraiment la dynamique de l'univers, quoi. Et ce sont deux sondes. Aujourd'hui, il y a peu de sondages qui regroupent ces deux observations en même temps. Donc là, on les a simultanément.
Et vous allez spécifiquement travailler là-dessus, sur ces observations-là.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs à Marseille, et on peut le signaler. c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse, justement, de combiner ces sondes. Dans ce cas-là, on parle de lensing, d'effet de l'antigravitationnel et de galaxy clustering, et d'essayer de le combiner de la meilleure manière possible pour vraiment bénéficier de cette combinaison et briser dégénérescence dans les modèles, vraiment.
D'accord.
Et c'est très important aussi parce que il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que les effets de l'antigravitationnel, en fait, on est sensible aux déformations des images, donc de la courbure des rayons lumineux. Et en fait, donc là, c'est les photons, donc la lumière, en fait, elle se déplace très rapidement, comme vous savez. C'est la matière, en fait, relativiste. D'accord ? Donc c'est un régime différent de celui de la matière ordinaire, matière baryonique, les galaxies, les étoiles, etc. Et donc on est dans des régimes gravitationnels différents. Et justement, combiner les deux aussi, ça apporte des contraintes, ça apporte des points de vue fondamentaux différents et qui sont très importants à combiner, justement, à mettre en regard, quoi.
Ah oui, c'est ce qu'on fait à Marseille. On le fait déjà sur un des sondages de SDSS, qui est le Sloan Digital Sky Survey, qui vient juste de finir. Et ce sont des combinaisons qu'on fait déjà sur les données actuelles de sondages qui sont plus petits, mais on essaye d'éprouver un peu la méthode. Imagine une photo, on prend une photo du ciel avec plein d'objets sur le champ de vue, c'est en 2D, et après l'information spectrale, c'est comme si on avait une troisième dimension. Donc pour chaque objet, on a un spectre, donc vraiment quelque chose en une dimension. En fait, nous, comme on les observe, on observe bien chaque spectre de chaque objet dans l'image, mais tout est projeté sur une image. Donc en fait, ces trois dimensions sont comme projetées sur deux dimensions. Et donc effectivement, il y a du mélange et de la contamination. Donc du coup, on observe différentes orientations pour un petit peu lever les dégénérescences, mais ça veut dire que sur une même image, on a à la fois tous les points, plus tous les spectres, et donc il y a tout un travail qui est fait en amont pour vraiment extraire ces spectres, et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la mesure du redshift.
Un des effets, notamment, qui est problématique, hein, en général, c'est le problème de la mauvaise détermination des redshifts. Par exemple, si on a un spectre d'une galaxie qui est très bruité, pour différentes raisons, parce que il y a une source de contamination à côté, parce qu'il y a un recouvrement, parce que pour différentes raisons, il est possible qu'on ne détermine pas bien la distance, enfin le redshift, et donc la distance de cet objet par rapport à nous. Et comme on étudie finalement les grandes structures tracées par les galaxies de manière statistique, le fait d'avoir des valeurs fausses ou des biais sur des mesures du redshift va vraiment impacter globalement notre estimateur, notre observable, et du coup, après, quand on va l'interpréter, quand on va le comparer à des prédictions théoriques, on va introduire un biais. Donc voilà, bon, moi je travaille sur, en particulier sur ces aspects-là, voir quel est l'impact notamment de la contamination sur la mesure de la statistique à deux points en particulier. Quel est l'impact des mauvaises mesures des redshifts. Voilà, ce genre de choses.
Mais oui, et puis nous, CPPM, on appliquait plus sur la simulation, sur la partie simulation des données, et en particulier de l'instrument NISP. Hein. Donc l'instrument NISP, il est construit à Marseille. Et du coup, l'instrument NISP, c'est vraiment le spectrophotomètre d'Euclide. Donc, du coup, on est intéressé par la science en spectroscopie. Enfin, tout est cohérent, en fait. On implique sur les simulations de cet instrument, sur la construction de cet instrument, sur la calibration de cet instrument, et puis sur l'exploitation des données.
ces galaxies, elles sont agrégées. Et ça, c'est lié à la formation des structures, le fait que la formation hiérarchique des structures, on commence de choses petites pour former des choses plus grosses. Et ça, c'est lié à la gravitation et également à l'expansion de l'univers, qui s'oppose d'une certaine manière à l'effondrement gravitationnel et à la formation des structures. Et donc, au final, ce qu'on va observer, c'est que ces galaxies, cette matière dans l'univers, même la matière noire, elle ne va pas être distribuée de manière homogène. On va avoir cette structure filamentaire dont on a déjà parlé. Et donc, ça veut dire qu'elle va être, il va y avoir des tendances à l'agrégation de ces objets, de ces galaxies. Et donc, pour quantifier ça, on veut voir quelle est la distribution, par exemple, de toutes les paires possibles d'objets, de galaxies, par rapport à une distribution aléatoire des galaxies. Imaginons que les galaxies soient complètement aléatoires. Et là, on veut voir quelle est la distribution du nombre de paires. Et ça, on compare ça à ce qu'on observe directement dans les données. Sachant que dans les données, les galaxies sont agrégées, donc cette distribution va être différente. Et cet écart qu'on va mesurer à une distribution uniforme aléatoire, en fait, va nous donner une information sur la force de l'agrégation, disons, les niveaux de structuration de la matière. Plus cette quantité va être importante, plus l'amplitude va être importante, plus dire que les structures sont complexes et la matière est structurée. Voilà, c'est vraiment ça l'observable. C'est une des observables principales qui va être utilisée à la fois pour les aspects galaxy clustering, mais aussi pour les aspects l'anti-gravitationnel, le sillonnement gravitationnel. On regarde aussi les corrélations à deux points. Donc là, c'est plus exactement les positions qu'on va corréler, mais c'est les formes. Mais voilà, dans l'idée, c'est de regarder un petit peu cette statistique à deux points. Donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer relativement facilement et qu'on peut interpréter d'un point de vue théorique relativement facilement.
Non, nous, c'est à peu près le même genre d'analyse, mais on utilise les vides cosmiques qui sont définis à partir des galaxies. Hein. On a besoin des galaxies pour définir nos vides. Donc, mais on est sur des échelles. Les oscillations acoustiques baryoniques, on les cherche à 100 mégaparsecs. Alors, pour donner un ordre de grandeur, 1 mégaparsec, c'est à peu près la distance de la Voie lactée. C'est notre galaxie à Andromède, qui est la galaxie la plus proche. Ça donne à peu près 1 mégaparsec. Les oscillations, le regroupement des galaxies est typiquement, il y en a typiquement plus à 100 mégaparsec à cette échelle-là. Et donc à partir de ces galaxies, nous on va définir des vides. La taille des vides cosmiques varie entre 10 et 150 mégaparsec. Donc ce sont quand même des gros objets. Hein. Notre galaxie serait un peu perdue au milieu de ces vides. Et on va plutôt regarder leur forme. Et puis on va regarder aussi, les bords de ces vides sont aussi affectés par les vitesses propres. Donc c'est le même effet que les galaxies, puisqu'ils sont constitués de galaxies en fait. Donc du coup il y a aussi un effet. Donc quand on a des vitesses cohérentes entre galaxies, du coup les vides vont aussi y être sensibles. Donc on a aussi une mesure d'une modification éventuelle de la gravité. Donc voilà, c'est une autre façon d'aborder les choses, qui est complémentaire en fait aux galaxies. Et on n'a pas les mêmes systématiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes... Les incertitudes sont de nature différente, donc en fait on a besoin des deux pour contraindre correctement nos modèles. Quand on dit énergie noire, c'est 70% de la composition de l'univers, on ne sait vraiment pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un fluide. On l'apparente à un fluide dans sa description mathématique, mais ça peut être une modification de la relativité, des lois de la gravité. Ça peut être n'importe quoi. On parle de champ scalaire, de champ dynamique, etc. On ne sait pas ce que c'est.
Okay.
C'est juste que ce ne sont pas des particules, parce que ce n'est pas de la matière. Voilà. Il y avait, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais il y avait un grand mathématicien à la fin du 19e, en 1895, qui ne voulait plus enseigner la physique, parce qu'il disait tout ça, on a tout compris aux lois de la physique. Et en 1905 et en 1915, il y a eu la relativité restreinte et générale d'Einstein qui a complètement révolutionné la compréhension qu'on a, plus la mécanique quantique. Et donc c'était vraiment deux grosses révolutions, comme quoi on n'avait rien compris en fait. Donc là, on est à une période où on a, quelle que soit la façon dont on observe l'univers, on converge toujours vers cette description d'énergie noire et de matière noire à 70%, 30%, ou 25% et 5% de matière ordinaire. On a des mesures de plus en plus fines, etc. Et on arrive toujours à cette même description. Donc, à un moment, on se dit, soit on va effectivement mettre peut-être en évidence une petite déviation et il faut un projet comme Euclide pour, ou soit c'est qu'il y a fondamentalement quelque chose qu'on n'a pas compris, quoi. Et il faut aussi Euclide pour mettre le doigt sur ça. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse révolution, en fait. Hein. J'espère, en fait, qu'elle sera là, mais voilà, on ne peut pas savoir. Et on ne sait pas si elle viendra avec Euclide ou si elle viendra avec la prochaine génération.
Après, ça peut être aussi une révolution purement théorique.
Oui.
C'est-à-dire que, comme Einstein, ouais. Einstein, quand il a créé la relativité restreinte d'abord, et puis générale, en fait, il ne s'est pas basé sur des observations ou des expériences. C'était purement théorique. Donc, il a imaginé que, on pouvait. Certaines hypothèses qu'on faisait d'habitude n'étaient peut-être pas forcément correctes, et puis à partir de là, potentiellement ouvrir de nouveaux horizons. Et ça a révolutionné, en effet, la physique. Et c'était d'un point de vue purement théorique.
Mais après, il y a aussi un appel aux nouvelles générations, parce que maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on comprend dans l'univers, enfin en tout cas qu'on interprète, et les nouvelles générations, ils n'ont pas non plus tous les antécédents, tous les a priori que nous, on pouvait avoir, donc. Peut-être que ça peut ouvrir de nouvelles voies de façon de penser. Et...
Donc, c'est aussi aventureuse.
Oui, exactement. Enfin, à un moment, on est aussi bloqué par ce qu'on a appris à l'école. Et il faut peut-être...
Oui.
Alors, c'était aussi une époque où ils n'étaient pas beaucoup et ils parlaient beaucoup entre eux. Et puis, je ne sais pas s'ils étaient moins spécialisés, mais il y avait vraiment beaucoup de communication, d'échanges, de débats. On en a aussi aujourd'hui, mais pas autant que... Je pense qu'on se pose moins des questions fondamentales. Mais on est trop pris par nos projets et c'est peut-être dommage. On pourrait revenir comme ça à des séances plus de débats, de conceptuels, quoi. Une fois par jour, il y a une transmission des données vers la Terre. Et on récupère toutes les données de 24 heures. Et après, ça, c'est distribué sur tous les centres de traitement en Europe. Donc il y en a une dizaine. En France, c'est le... centre de calcul de Lyon, de Liane de Pétroy. Et toutes ces données sont traitées comme si c'était une seule grosse machine. Et là, on les calibre, on extrait les spectres, on décontamine, etc. pour après avoir des catalogues qui vont être exploités par les scientifiques.
Et donc c'est là où ça vous arrive.
C'est là où ça prend du temps. Ça se fait pas en deux jours. La stratégie d'observation d'Euclide, c'est un point du ciel, enfin une seule fois. C'est-à-dire que vraiment, on va cartographier donc, à peu près la moitié du ciel, parce qu'après, on est gêné par la galaxie, donc on ne peut pas observer dans le plan galactique. Mais donc, on observe pratiquement tout le ciel extragalactique. Mais la stratégie, c'est un champ, une fois. Et comme ça, on va passer, parce que, le problème de la spectroscopie, c'est que l'avantage, c'est qu'on a une mesure très précise du redshift et donc de la distance des objets. L'inconvénient, c'est qu'il faut un temps de pause, puisqu'on a besoin de suffisamment de lumière intégrée pour pouvoir faire un spectre. Donc du coup, on a des temps de pause qui sont plus longs que si on fait que de la photométrie. Et donc du coup, ça c'est gourmand. Et donc là, c'est pour ça que la stratégie d'observation, c'est
un seul passage.
Sur tout le
ciel observable, là, finalement.
Mais par exemple, d'une manière complémentaire, il y a le télescope LSST, donc qui est installé au Chili, qui va commencer aussi en 2022, qui lui est dédié plutôt à l'observation des supernovae et tous les objets transientes. Et lui, il a une stratégie d'observation qui est à l'opposé. Il va observer, je ne me souviens plus exactement, mais à peu près 10 fois le ciel toutes les nuits.
La même partie du ciel.
Voilà. Donc du coup, le but, c'est d'observer des objets qui varient dans le temps. Et donc, il va revenir régulièrement dessus.
Pour voir s'il n'y a pas de nouveaux objets.
Donc, ce n'est pas du tout la même stratégie. Mais il n'a pas besoin de temps de pause. Il n'a pas besoin d'un temps de pause de 40 minutes par plan, en fait.
Bon, merci beaucoup Sylvain.
D'accord.
Merci beaucoup Stéphanie.
Merci à toi.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Moi je trouve ça très très bien.
Par rapport aux autres par exemple. Non mais pas dans le sens de la qualité, je veux dire, dans le sens du contenu surtout.
Euclide, le métier à tisser l'univers, donne la parole au personnel du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du CNES, impliqués dans la réalisation du spectrophotomètre infrarouge grand champ, également appelé NISP, l'un des deux instruments embarqués de la mission spatiale Euclide de l'Agence spatiale européenne. Les chercheurs et ingénieurs que vous entendez ici travaillent principalement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au Centre de physique des particules de Marseille. Cette série d'émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d'Aix-Marseille Université, du CNES et du LabEx au CEVU.